soir. Après les succès militaires enregistrés par les FARDC sur le M23 dans la province du Nord Kivu, que faire pour consolider la paix, renforcer l'autorité de l'État et promouvoir le développement dans cette partie du pays? Pour en parler, nous recevons comme invité Roger Malinga, conseiller politique et diplomatique du gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur Malinga, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Thomas Dakin Mouiti, président de la société civile du Nord Kivu. Monsieur Mouiti, bonsoir.
Bonsoir Guy Mathé, bonsoir aux co-débatteurs, bonsoir aux auditeurs de Radio Kaka.
Merci beaucoup Thomas Dakin Mouiti, c'est plutôt Alain Roux qui est au micro. Jean-Jacques Ouondo, bonsoir.
Bonsoir monsieur Alain Roux, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à mes co-débatteurs.
Merci monsieur Ouondo, je rappelle que vous êtes analyste politique et expert en questions militaires, également auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FARDC ». Nous sommes mardi 29 octobre 2013. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo déclarés territoires sinistrés depuis hier. Pas de taxes ni impôts, pas de barrières non plus jusqu'au 31 décembre prochain. Pour le gouverneur du Nord Kivu qui a annoncé cette décision hier lundi à Kiwanja et à Rutshuru Centre, la mesure vise à soulager la population de ces deux territoires qui restaient sous occupation des rebelles du M23 pendant plus d'une année. C'est également pour permettre la relance des activités économiques dans ces deux territoires. On écoute Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, au micro de Denise Lukeso.
Il ne faudrait plus qu'un autre groupe armé puisse disposer des armes. Seuls les FARDC, les éléments de la police et seuls les éléments de la MONUSCO sont autorisés à avoir des armes. Tout autre groupe armé, personne n'est autorisé à partir de ce moment de tenir une arme. La deuxième mesure, les territoires de Rutshuru de Nyiragongo deviennent des territoires sans taxes ni impôts. Comme les M23 ont tellement tracassé les gens, ont fait payer des taxes exorbitantes, pour la période qui reste jusqu'à la fin de l'année, il ne sera payé aucune taxe et aucun impôt. Enfin, nous avons déclaré les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo territoires sans barrières, que ce soit les péages routes, les barrières pour la collecte de X ou Y choses pendant toute cette période jusqu'à la fin de l'année. Il n'y aura pas de barrières dans ces deux territoires. C'est au 31 décembre que nous allons faire une évaluation pour voir si ces mesures ont pu apporter quelque chose dans la relance économique de cette partie de la République qui a longtemps souffert.
Roger Malinga, vous êtes conseiller politique et diplomatique du gouverneur de la province du Nord Kivu. Vous le savez, c'était mission est également pédagogique. Les territoires de Rutshuru et Nyiragongo déclarés territoires sinistrés, concrètement, qu'est-ce que cela voudrait dire?
Merci pour la question, M. Alain. Vous savez que le territoire de Rutshuru, d'abord, c'est l'un des territoires de la province du Nord Kivu, qui dirige son Excellence, M. le gouverneur Julien Paluku. Et c'est le territoire où la population de ce territoire a été dominée par les souffrances du M23, a été pillé, massacré. Il y a des maisons qui ont été détruites, les écoles. Bref, c'est un territoire aujourd'hui qui doit être reconstruit. C'est un territoire aujourd'hui qui nécessite un bouée de sauvetage. Et je crois que la mesure du gouverneur, celle d'interdire toute taxe, toute la perception de toute taxe et impôt sur l'espace sur le territoire de Rutshuru, c'est une mesure qui va soulager tant soit peu la population qui a souffert effectivement. Et c'est une mesure qui va relancer l'économie de ce territoire et nous pensons que ça vaut la peine et je crois que c'est la première mesure, mais je pense qu'il y en aura d'autres parce que le territoire de Rutshuru, c'est un territoire agricole. Et vous savez qu'avant l'occupation du M23 dans ce territoire, Rutshuru comme territoire produisait, si j'ai une bonne mémoire des statistiques, les manioc 17 829 tonnes de sorgho, les manioc c'était 24 240, haricots c'était 49 230. Bref, je crois que c'est une mesure qui va aider tant soit peu cette population et pourquoi relancer l'économie de ce territoire et pourquoi pas de la province entière.
Alors Roger Malinga, quand le gouverneur déclare ces territoires également territoires sans armes, il ne faudrait plus qu'un autre groupe armé puisse disposer des armes, seuls les FARDC, la police et la MONUSCO sont autorisés à avoir des armes. Est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel du Nord Kivu, c'est possible?
Oui, c'est possible. C'est une autorité qui l'a déclaré. Et c'est la première mesure pour restaurer l'autorité de l'État dans ce territoire. Vous savez qu'il a été occupé par les mouvements rebelles et que désormais, il faudra que l'autorité de l'État soit rétablie sur l'ensemble du territoire. Et la première mesure, je crois que c'est celle-là, il faudra que les armes ne soient détenues qu'avec la police, qui sera en fait déployée partout, à Kako, à Rubare, à Kiwanja, à Tongo, à Nyamirima, à Kisharo, pour que finalement cette population soit soulagée et qu'elle comprenne que réellement il y a un pouvoir, il y a l'autorité qui a agi et qui désormais seront protégées par cette population. C'est vrai, il y a une panoplie de groupes armés qui se sont disséminés dans tout ce territoire, mais je crois que c'est une première mesure, il y en aura d'autres, parce qu'en fait, le territoire de Rutshuru, de Masisi, pratiquement le Nord qui vous connaît une histoire par rapport aux groupes armés, et donc, dans le contexte actuel, il faudra que celui qui détienne une arme soit identifié, et comme son excellence, monsieur le gouverneur de province venait de le dire, ne pourra avoir une arme ou détenir une arme un élément de la police. Donc ça permet d'identifier les récalcitrants qui continuent à croire qu'ils vont continuer à rester sur le champ de bataille et détenir les armes non identifiées, et ça va continuer à créer énormément de problèmes. Et je pense que c'est une mesure plutôt que nous saluons et qui pourra apporter des fruits.
Nous allons prendre pour vous, Roger Malinga, cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Robert Baume de Bukavu au sud Kivu. Je pense que la déroute de M23 au nord Kivu fait sans doute la place aux autres bandes armées encore actives dans cette partie du pays. Y consolider l'armée, y renforcer l'autorité de l'État et y promouvoir le développement, c'est encore difficile, c'est pas possible, tant que ces bandes armées ne seront pas neutralisées.
Voilà, il n'est pas encore possible de consolider la paix, renforcer l'autorité de l'État au nord Kivu avec tous ces groupes armés qui pullulent dans la province, Roger Malinga.
Oui, je crois qu'on ne doit pas être négativiste. Je crois qu'on doit avoir les sentiments qui affichent une autorité qui donne ou qui appuie une décision par rapport à un problème existant. C'est une autorité provinciale maîtrisant parfaitement la province qu'il gère. C'est maintenant 8 ans. Donc, qui maîtrise la problématique? Et je disais tantôt que c'est la première mesure. Il y en aura d'autres. Mais quand une mesure comme celle-là, qui a comme objectif d'identifier qui détiennent les armes illégalement, quand cette mesure est prise, pourquoi les gens doivent développer des sentiments négativistes, parce qu'en fait, croyant que la République pourra être toujours telle qu'elle est aujourd'hui. Nous saluons les efforts et l'offensive de nos FARDC contre les M23. Il y a quelques temps, on ne pouvait parler que des échecs de ces FARDC, des éléments des FARDC, mais aujourd'hui nous nous réjouissons, ce n'est pas un fait du hasard, c'est parce qu'il y a un travail effectivement qui est en train de se faire, par rapport à une recommandation qui revient chaque fois qu'un État congolais participe dans des conférences, des forums internationaux, par rapport à la restauration de l'autorité de l'État, par rapport à la mission régalienne de l'État congolais. Et donc cette mesure-là, je crois qu'elle vaut la peine, et dans peu de temps, je crois que nous tous nous allons jouir des fruits qui vont s'opérer à Rutshuru.
Alors Roger Malinga, pourquoi finalement n'est pas décrété totalement, carrément toute la province du Nord Kivu, province sinistrée?
Bon, disons ça relève à ce moment-là, ça relève d'une autre instance, mais au niveau de l'autorité provinciale. Parce qu'en fait, c'est une particularité pour les territoires de Rutshuru. Rutshuru et Nyiragongo étaient occupés par les mouvements M23. Aujourd'hui, ils sont à des bandades, on les a chassés, et donc il faut que y ait des mesures conséquentes pour finalement commencer à restaurer l'autorité de l'État. Et pour l'autorité provinciale, c'est la première mesure. Donc, qui concerne d'abord les territoires de Rutshuru, parce qu'en fait, c'était les fiefs du M23, c'était les bastions du M23, comme ils ne sont plus là, comme ils ont été chassés.
Merci.
La première mesure de l'autorité provinciale concerne les territoires de Rutshuru. Il ne doit pas en fait dévoiler tout ce qui sera pris comme une décision, mais je crois que la première décision qui a été décidée par le gouverneur Julien Paluku, que je salue en passant, que cette mesure concerne d'abord les territoires de Rutshuru. Nous le savons bien, il y a d'autres territoires comme Walikale, comme le territoire de Beni, comme le Bero, où il y a des groupes armés, mais je crois qu'il y aura aussi des mesures conséquentes.
Merci
par rapport à ces territoires-là. Mais comme pour le moment, c'est Rutshuru qui intéresse l'autorité provinciale, et c'était une priorité aujourd'hui de prendre une décision.
Merci.
Que les gens se tranquillisent, que les gens soient calmes, mais l'essentiel était d'abord de prendre cette décision pour
Merci.
Que finalement la population de Rutshuru soit en paix, retrouve la paix et qu'elle sache qu'elle appartient en entièreté à l'État congolais.
Merci Roger Malinga, je vous redonne la parole tout à l'heure. Thomas Dakamwiti, vous êtes président de la Société civile du Nord Kivu. Comment vous avez accueilli cette nouvelle selon laquelle Rutshuru, les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo ont été déclarés territoires sinistrés?
Oui, je pense que l'idée est très bonne. D'ailleurs, je félicite le gouverneur de province qui, juste après avoir délogé le rebelle du M23 sur le territoire de Rutshuru et de Nyiragongo, il n'a pas traîné le pas pour aller présenter un message de compassion à cette population qui vient de souffrir pendant plus d'une année. Et donc, vraiment, le gouverneur est à féliciter. Je profite de votre micro, Alain, pour présenter également les félicitations, les meilleures à notre armée, mais aussi à la population qui a donné sa contribution. On ne peut pas dire que la victoire des FARDC aujourd'hui, c'est une victoire exclusive de l'armée, c'est aussi une victoire de cette population qui a donné sa contribution. La meilleure de la contribution était d'orienter les FARDC où se trouve l'ennemi, quelles sont les stratégies de l'ennemi. Et donc, cette population mérite également nos félicitations et nos encouragements. La décision du gouverneur qui prend le territoire de Rutshuru et de Nyiragongo comme de territoire sinistré, je dis bien, c'est une très bonne décision, mais comme l'a bien souligné Alain lui-même, le journaliste, en posant la question à mon patron Malinga, c'était important que les autorités au plus haut niveau, d'ailleurs nous l'avons déjà demandé à plusieurs reprises, que le Nord Kivu soit considéré un territoire sinistre, puisque il y a le cas de Rutshuru, il y a le cas de Nyiragongo. Mais si vous voyez Pinga avec cette population-là, si vous rentrez à Kichanga avec la destruction méchante qui a été orchestrée par ces militaires-là qu'on appelle, je ne comprends plus son nom, je pense Mudahunga. Le Mudahunga qui a détruit toute la cité de Kiwanja. C'est un militaire FARDC qui a fait ça. Et nous pensons qu'un jour il doit répondre de cet acte, de ces actes. Si vous descendez à Oufamandou aujourd'hui, tous les villages qui ont été incendiés, descendez un peu en secteur de Bakano. Donc presque, là je ne parle pas du territoire de Beni où on vient d'enregistrer plus de 850 personnes enlevées. Avec la destruction de Kamango, je pense que toute la province est vraiment touchée par le sinistre. Peut-être ça ne relève pas de la compétence du gouverneur, mais je pense qu'à la haute hiérarchie, ce serait plus intéressant que la province du Nord Kivu soit considérée comme une zone sinistrée, qu'il y ait des projets spécifiques qui soient implémentés sur cette partie du territoire national.
Thomas Dakamwiti.
Tant soit peu la population du Nord Kivu.
Thomas Dakamwiti, c'est vrai, les FARDC ont enregistré des succès face au M23. Ne crie-t-on pas victoire trop vite au moment où la population, la province pilule encore d'autres groupes armés qui risquent de compliquer l'élan des développements tant recherchés?
Non, nous ne pouvons pas globaliser. Les FARDC ont commencé une opération contre un premier groupe et ce sont des succès, il faut les louer. Le reste, je pense qu'il y a des groupes armés qui vont disparaître d'eux-mêmes. Il y a par exemple le groupe Cheka. qui est là et qui travaillait, comme on dit, je ne sais pas, je n'ai pas de preuves, mais il a été accusé qu'il travaille avec le M23. Une fois le M23 démantelé, je pense que Tcheka va devoir déposer les armes. Il y a des groupes armés qui étaient des groupes qui travaillaient contre la balkanisation, contre les envahisseurs. Et donc, ces groupes-là, je pense que dans les quelques jours, d'ailleurs, c'est un panier de recommandations que j'ai formulées, que je vais formuler au cours de cette émission, pour demander un certain nombre de choses, puisqu'il y a de ces groupes-là qui bientôt vont désarmer d'eux-mêmes. Et donc, on ne peut pas craindre que les FARDC ont encore un grand travail à faire. Le grand travail, c'était le Rwanda, l'Ouganda, qui venaient envahir pour balkaniser notre pays, et les autres ne sont que des petits citoyens de notre territoire national, qu'on peut sensibiliser pour déposer les armes. D'ailleurs, le processus est en cours, on a déjà commencé à sensibiliser certains, mais qui disaient, comment vous voulez nous sensibiliser à déposer les armes pendant qu'il y a encore le Rwanda, l'Ouganda, qui sont là et qui veulent couper notre territoire. Voilà un peu comment j'analyse les choses, et donc on ne peut pas ne pas remercier et ne pas chanter la victoire, puisque le reste, je pense que ce n'est plus compliqué comme cette agression dont nous étions victimes de la part du Rwanda et de l'Ouganda à travers ces petites marionnettes là qu'on appelle le M23.
Jean-Jacques Wondo, vous êtes analyste politique et expert en questions militaires, également auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées au Congo, Kinshasa, radioscopie de la force publique au FARDC ». Comment vous analysez cette décision de décréter les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo territoires sinistrés?
Je pense que c'est une décision qui est assez logique pour la simple raison que ces territoires, au départ, échappaient au contrôle effectif de l'autorité officielle ou des autorités loyales. Il était normal qu'une fois que ces territoires soient récupérés par l'autorité, qu'on puisse évaluer la situation sur place. Et là, on s'est rendu compte que le territoire était devenu déstructuré en termes de fonctionnement. Et je salue d'ailleurs cette mesure de pouvoir déclarer ces territoires sinistrés, ce qui va faire de sorte qu'on mette en place une série de crises qui va pouvoir se faire au travail pour permettre d'établir un état des lieux et évidemment définir des actions à mener pour remettre un peu la vie, le cours normal des activités. D'autant plus qu'on vient de découvrir notamment des charnières sur place, il faut faire des enquêtes. Et je pense que quand on déclare un territoire sinistré, c'est généralement quand il y a une catastrophe de grande envergure ou un incendie ou un accident. Et je pense que ces territoires qui étaient sous contrôle des forces négatives ou de la force négative que le M23, avec tout ce qu'on découvre, il est normal que ce soit une mesure beaucoup plus raisonnable et rationnelle. Et après, on évaluera ce qu'il faut faire réellement sur le terrain.
Alors, concrètement, Jean-Jacques Wondo, qu'est-ce qu'il faut pour consolider la paix, renforcer l'autorité de l'État et promouvoir le développement dans cette partie du pays, concrètement?
Concrètement, pour consolider la paix, moi je pense qu'il faut d'abord consolider la victoire militaire. Parce que, voilà, je constate que je ne suis pas négativiste, mais je pense qu'en termes militaires, une victoire est acquise dès lors que l'ennemi est totalement défait. Or aujourd'hui, les FARDC ont réalisé de grandes performances et ils ont quasiment éliminé le M23, mais le M23 n'a pas encore totalement disparu. Donc il faut arriver au niveau, après l'action militaire qui va éradiquer le M23, arriver à sa reddition. C'est-à-dire que passer de l'étape de la guerre à une étape où le M23 et ses alliés reconnaissent leur défaite et que ce mouvement soit dissous. Mais si on ne fait pas ça, on a assisté par le passé à plusieurs retournements de situations. Donc, au-delà de l'euphorie qu'on constate, il faut rester vigilant et accompagner les FARDC, encourager les autorités à mener les actions militaires jusqu'à l'éradication totale du M23. La deuxième chose, cette victoire doit
à mon avis, faire tourner la page Kampala. C'est-à-dire que Kampala, pour moi, n'est plus le lieu idéal pour pouvoir résoudre la solution. Et là, nous passerons à l'étape de l'accord cadre d'Addis Abeba, au niveau d'Addis Abeba, où le problème ne sera plus traité au niveau uniquement interne au Congo, mais dans un contexte beaucoup plus large, régional. Et une fois que cela est acquis, il faudrait aussi élargir, comme dans les prédictions l'ont dit, le rayon d'action des FRDC, parce que en dehors du 1-23, il y a une cinquantaine d'autres groupes. Ce matin, on a assisté à l'attaque de Bakata Katanga encore dans un dépôt de munitions au Katanga. Mais je pense que cette victoire ou cette performance joue une symbolique psychologique importante auprès des autres groupes. Et beaucoup de groupes qui étaient en activité, c'était plutôt en réaction avec le M23. Donc on va, dans les jours qui suivent, assister à une diminution de ces groupes, mais il faut par la suite entamer ou poursuivre la réforme des services de sécurité. Parce qu'on oublie que si l'insécurité a pris cours, a été devenue quelque chose de normal dans cette région, c'est parce qu'à ce moment, il y a eu une défaillance de la réforme des services de sécurité. Par rapport aux services de sécurité, il n'y a pas que l'armée, mais il y a l'aspect police et l'aspect justice qui doivent accompagner toutes ces actions. Ce n'est que quand toutes ces conditions sont réunies, on passe de la sécurité à la pacification, et une fois qu'on pacifie, on peut passer par la suite à la stabilisation qui sera accompagnée par des programmes de stabilisation, comme revoir comment on peut réactualiser le programme de Starec.
Jean-Jacques Wondo, au début de votre propos, vous avez dit que, en principe, en fait, cette décision de décréter Rutshuru et Nyiragongo territoire sinistré, c'était une décision logique et qu'il fallait mettre en place une cellule de crise qui pour établir un état des lieux. Ne fallait-il pas déjà en amont, avant la reconquête de ces territoires, mettre en place un plan d'urgence? Cette cellule ne viendrait-elle pas en retard comme vous le proposez?
C'est difficile vu la manière dont les actions se sont accélérées ces derniers temps. Parce que par le passé, parfois on avançait et puis il y avait un statu quo où soit on reculait, on perdait les zones. Ce n'est pas trop tard, mais je pense qu'il faut quand même saluer le fait que cette idée soit venue dans le chef de l'autorité provinciale. Mais bon, il y a des plans qui existaient par le passé, il suffit de les activer ou de voir à quel niveau ils ont été accomplis, ils ont été effectués et voir ce qu'il y a lieu de faire. C'est vrai qu'on a un peu de retard, mais c'est là, il ne faut pas non plus faire des choses dans la précipitation. Il faut aller constater la situation, comme on dit en anglais, « as-if » et pour voir ce qu'on peut faire par le futur dans ce qu'on appelle le « to be ». Pour moi, je pense qu'il n'y a pas tellement de retard vu le contexte dans lequel les choses sont déroulées, où il y a une certaine accélération dans les événements ces dernières semaines.
Jean-Jacques Wondo, je vais vous demander une très brève réaction. Il y a Maître Louis Aloubati Cicéron de Kindo Maniema qui dit « Je pense pour qu'il y ait consolidation de la paix, il y a lieu de poursuivre avec les pourparlers de Kampala, bien que le M23 soit militairement anéanti et surtout qu'ils sont en position de faiblesse, mais politiquement ils existent et comme ça tombe à point, il faut les intégrer dans le gouvernement de cohésion nationale, de surcroît il faut organiser un vrai dialogue. Brièvement, je vous en prie. »
Brièvement, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je défends plutôt l'option où Kampala, c'était dans un contexte assez difficile où le M23 avait la suprématie sur le plan militaire et a forcé le gouvernement à aller à Kampala. Et ces derniers temps, depuis le mois de mai, on a vu un retournement de situation au niveau militaire parce que les FRDC étaient enfuyés par la MONUSCO. Le M23 était affaibli pour plusieurs raisons. Et on est dans une logique où Kampala devenait un lieu pour retarder les échéances. Pour moi, Kampala n'est plus les lieux pour pouvoir discuter. On peut discuter des choses dans un niveau beaucoup plus supérieur, au niveau de la concade. Parce que si on doit résoudre le problème avec le Kampala, c'est limité entre le gouvernement du Congo et le M23 qui reste un des groupes spirituels. Et qu'est-ce qu'on va faire des 50 autres groupes? Il faut encore négocier avec eux. Moi, je pense que le problème reste un problème systémique régional qui nécessite une approche globale régionale au niveau de la force de Addis Abeba, où on peut traiter ces problèmes en intégrant le M23 parmi tant d'autres et surtout en impliquant aussi tous les soutiens du M23, notamment le Rwanda et l'Ouganda.
Merci Jean-Jacques Wondo. Merci Jean-Jacques Ouondo. Que faire pour consolider la paix, renforcer l'autorité de l'État et promouvoir le développement dans le Nord Kivu? Écoutons à présent quelques acteurs politiques de cette province que nous avons contactés, donner leur proposition à cet effet. Ils ont été joints au téléphone par Kéline Kouté.
Le député national Katembo Muzee Bidje de la circonscription de Rutshuru. Pour la consolidation de la paix, dans l'immédiat, il faut bien doter notre armée d'une logistique ayant les normes standards internationaux, équiper aussi notre police et faire le suivi de leur salaire jusqu'au destinataire. Et pour renforcer l'autorité de l'État, j'ose croire qu'on doit beaucoup lutter contre la corruption et surtout veiller sur les organes judiciaires. Et pour le dernier point, je crois encore, pour le moyen terme, l'État congolais doit promouvoir la création de grandes sociétés pouvant engager les jeunes désœuvrés pour occuper utilement de façon à couper cette courroie entre les groupes armés et la jeunesse. Donc je vais parler d'une sécurisation par investissement.
C'est l'honorable Mukinyi Nahima Nonswald, député national, élu de la circonscription électorale de Masisi au Nord. Nous sommes tous fiers de ce que le phare de Sèvres sont en train de faire. La première des choses, je crois que il faut laisser l'armée faire un travail de nettoyage, rétablir les chefs politico-administratifs dans leur sphère, rétablir l'autorité de la police et que l'armée nettoie. Il peut y avoir de certains résidus M23 qui sont restés d'ici par là, mais aussi des infrastructures routières, car la sécurité, il y a les infrastructures routières que le commerce commence. La région est essentiellement agricole et touristique. Ça peut donner facilement des emplois aux jeunes.
Honorable Grégoire Kirotsongo, élu du RCD KML en ville de Bénin. Je crois qu'il faut d'abord renforcer la présence de l'armée parce qu'il ne faudrait pas oublier que le Rwanda n'a certainement pas renoncé à ses velléités expansionnistes et des limites d'exploitation de nos richesses naturelles. Je crois qu'il faudrait aussi renforcer la police pour sécuriser la population et la rassurer. Il faudrait aussi remettre sur pied une administration publique capable d'encadrer les citoyens, notamment les paysans qui en ont vraiment besoin parce qu'ils doivent relancer leur production. Et sur le plan économique, je crois qu'il faudrait absolument déclarer ces contrées zones sinistrées, comme toute la province d'ailleurs, avec comme implication les allègements fiscaux. Mais il ne faudrait pas non plus oublier que ça, ce n'est qu'une partie du Nord Kivu qui a été pacifiée, parce que le gros du Nord Kivu, ça veut dire le Grand Nord, est encore sous le joug de tous ces groupes armés qui y sévissent.
Honorable Lusenge Bonane Jérôme, élu du Nord Kivu à territoire de Lubero, l'armée qui sera implantée dans la région de Rutshuru, comme dans les régions voisines de Lubero et ailleurs, il ne faut plus une armée monoethnique. Voilà, si cela est admis et que les représentants de l'État ne doivent pas être des personnes d'une même coloration politique. Les fonctionnaires doivent être apolitiques. Nous voulons que le gouverneur lui-même ait la répartition des dividendes provinciales, qu'il les distribue sans installer son parti politique et que le produit provincial est réparti à l'équité, à toutes les responsabilités. Nous ne voyons pas qu'est-ce qui peut nous gêner.
Roger Malinga, vous venez de suivre les propositions de ces députés élus du Nord Kivu que nous venons de suivre. L'honorable Katembo, par exemple, propose, il parle de sécurisation par l'investissement. Ce sont des grands projets. Il y a l'honorable Mukingi parle des infrastructures. L'honorable Kiro parle de l'autorité de l'État qu'il faut rétablir. L'honorable Lusenge, vous l'avez suivi, parle de la justice distributive, tout ça, ce sont des grands projets, mais est-ce faisable tout ça? Parce qu'on est en urgence.
Disons que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les interventions de tous les députés du Nord Kivu qui ont intervenu. Je suis très satisfait parce qu'à le suivant, je sens qu'ils réagissent par rapport à un problème réel, sans pour autant réagir comme député de la majorité ni de l'opposition. Tout simplement parce que la question que nous abordons à ce moment concerne la République. Et ça, c'est un bon exercice. Et j'encourage la Radio Okapi qui nous soumet à cet exercice. Parce que quand il faut parler des matières relatives à la République, liées à l'intégrité de territoire, liées à la sécurité, je dois qu'on doit enlever nos robes qui viennent des partis politiques, qui viennent de nos positionnements politiques. Par rapport maintenant à la question, je crois que les gens, il ne faudrait pas que je comprends que c'est une satisfaction, c'est un sentiment de satisfaction par rapport à ce qui doit être fait à Rutshuru. Mais la mesure prise par l'autorité provinciale de décréter le territoire de Rutshuru comme une zone sinistrée, c'est la première mesure conséquente. La population de Rutshuru, elle était meurtrière, elle a subi des exactions, et aujourd'hui, elle a besoin des bouées de sauvetage. On doit y réfléchir quelle est l'action qui doit attirer l'attention des autorités compétentes à Rutshuru. Je crois que la première chose, c'est le déploiement effectivement de la police, de l'armée et des autorités politico-administratives. Les deux administrateurs du territoire, celui de Rutshuru et celui de Nyiragongo, étaient en exil à Goma pendant plusieurs mois. Je crois que dans les prochains jours, ils pourront être déployés dans leur territoire pour exercer les fonctions pour lesquelles la République les a envoyés là-bas. La deuxième chose, comme certains députés l'ont dit, c'est par rapport effectivement au travail de nettoyage. Parce qu'en fait, le M23, bien qu'appuyé par les pays voisins, c'est-à-dire le Rwanda, a utilisé la jeunesse de Rutshuru, la jeunesse de Nyiragongo. Et donc, ces gens-là, ils sont jeunes, ils ont terminé les études, peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance de trouver un emploi, et ils ont été trompés par ceux-là qui les ont sensibilisés, et ils ont finalement adhéré dans les M23. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, ils se sont rendus compte qu'on les a trompés, et voilà, ils sont prêts à revenir dans la vie active. Je crois que l'État congolais devra en fait y réfléchir pour voir quelle stratégie, quels sont les mécanismes à mettre en place pour créer des emplois à cette jeunesse-là. Par rapport au projet d'investissement, je connais en fait le budget de la province, je connais les moyens que le gouverneur de province gère et dans la sécurité et dans le développement et dans les fonds d'investissement.
Merci.
En tout cas, pour le moment, ce qui est prioritaire, je crois qu'une priorité doit être accordée d'abord à la réhabilitation des tronçons routiers.
Merci.
Parce que Rutshuru, c'est une population dynamique. Si les routes sont réhabilitées, s'il y a l'accessibilité et s'il y a un appui dans les domaines de l'agriculture, cette population va se prendre en charge.
Merci.
Elle va encore produire une fois les haricots, les maïs,
merci,
les sorgots, qu'elle devra envoyer à Goma et même à Kinshasa.
Merci Roger Malinga. Thomas Dakamwiti, il y a Moïse Oufoy qui nous écrit de Bounia en province orientale qui dit « La réconciliation entre les ethnies serait la première étape à amorcer par l'État pour consolider la paix au Nord Kivu. » Quelle est votre réaction?
C'est l'une des recommandations majeures que j'ai pu identifier. À part les quelques 5-6 recommandations formulées par les honorables députés du Nord Kivu, que je salue en passant, je pense que effectivement il y a un travail à faire dans le cadre de recréer la confiance entre les groupes ethniques à l'est de la République. Vous savez, il y a ceux qui ont été utilisés par les Rwandais, ceux qui ont été, ceux qui ont instrumentalisé. Le Rwanda prétend défendre une partie de la communauté du Nord Kivu. Et j'ai toujours dit que ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est toujours une manière de vouloir opposer ces communautés-là aux autres communautés du Nord Kivu pour que cela soit considéré comme des ennemis éternels. Et je pense que c'est important qu'il y ait des activités allant dans le sens de recréer la confiance entre les groupes ethniques à l'est de la République, à part les autres activités qui doivent suivre, notamment le désarmement des groupes armés, mais aussi identifier les éléments du M23 qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont dans le gouvernement, qui sont éparpillés partout et qui sont même dans les services de sécurité. Ces gens-là doivent être identifiés. Il y a des hommes qui ont distribué des armes à la population civile avant de ramasser ces armes. Ces gens-là doivent être identifiés, ils doivent être traduits en justice. Je pense que tout ça, ce sont des activités qui doivent être menées. Et je pense que les députés ont parlé du déploiement de la police de proximité. Une police de proximité pour réhabiliter l'autorité de l'État, pour réhabiliter les pouvoirs coutumiers, pour faciliter la reconstruction des infrastructures. Je pense que toutes ces activités-là, mises ensemble, on peut arriver à une paix, mais aussi entrevoir le développement dans les moyens termes.
Thomas Bakamwiti, ce sont des propositions très ambitieuses, mais qui se mettraient en place avec quels moyens?
Écoutez, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Je pense, à mon avis, qu'il suffit de mettre la volonté. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec les gens qui disent qu'il n'y a pas de moyens. Ce n'est pas vrai. La volonté suffit pour que... On disait que même pour avoir une armée républicaine qui peut mettre fin à l'activisme des groupes armés, il faut des moyens. Mais ceux qui ont travaillé et mettre fin, ou du moins qui sont en train de combattre le Rwanda et l'Ouganda là-bas sur la ligne de front, on a utilisé des moyens, bien sûr, mais est-ce que les gens qui disaient que ce sont les moyens qui manquent, c'est pourquoi on n'est pas capable de faire quelque chose, peuvent nous dire d'où sont venus les moyens? Je pense qu'il y a un problème de volonté et tout peut se faire.
Merci, surtout, Thomas Bakamwiti.
Surtout dans une province où la population est vraiment dynamique. La population du Nord Kivu, c'est une population dynamique. Il suffit qu'il y ait un lancement, une volonté, et le reste va suivre.
Merci Thomas Bakamwiti. Jean-Jacques Wondo, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kolwezi au Katanga.
Professeur Ignace Ndala depuis Kolwezi au Katanga, je pense qu'il faut mettre sur pied un petit plan Marshall qui consistera à créer une structure de patrouille permanente en renforçant la présence des forces combattantes et la police, création des petites associations paysannes de micro-projets et l'implantation des institutions bancaires en vue de la relance agricole. Tout ceci, évidemment, nécessite de gros moyens financiers.
Réaction Jean-Jacques Wondo, on sait que tout dernièrement, la Belgique a plaidé pour un plan Marshall pour l'Est de la RDC, mais plusieurs personnes ont crié à la balkanisation.
Oui, je pense que le principe d'un plan Marshall en soi n'est pas mauvais. Je pense que quand une zone ou un territoire sort d'un conflit, il faut un plan qui lui permette de se remettre, de normaliser la situation. Ici, je voudrais revenir rapidement sur tout ce qui a été dit, et on voit que ce qui revient plus souvent, et ce que j'ai dit au départ, c'est qu'il faut continuer d'abord à consolider la victoire militaire, parce que le M23 n'est pas encore totalement défait. Et deuxièmement, une fois que on est sûr d'avoir défait le M23, pour suivre la réforme des services de sécurité, et par service de sécurité, il n'y a pas que l'armée, comme je l'ai dit, mais il y a la police et la justice. La police est censée maintenir l'ordre public, assurer la sécurité intérieure du pays et lutter contre la criminalité. Une police de proximité permettrait aussi de pouvoir restaurer la confiance entre l'autorité et les citoyens. Donc, avant de passer au plan Marshall, qui est une étape de normalisation d'une zone sinistrée ou d'une zone qui sort de conflit, il y a d'abord des étapes de sécurisation, de pacification et puis de stabilisation. C'est-à-dire qu'on doit poursuivre la lutte contre la sécurité par la sécurisation et la pacification du pays qui prépare la stabilisation du territoire. Par pacification, il faut attendre par un mécanisme à la fois militaire, politique, les politiques, on l'a soulevé tout à l'heure, entre autres surtout les dialogues entre les communautés, qui permet de pouvoir réconcilier les populations qui étaient autrefois opposées par des manipulations politiciennes des acteurs nationaux et internationaux, et économiques, qui doit conduire à un abaissement du niveau de la violence et doit consolider la paix obtenue pour permettre le retour à la confiance. Et une fois la pacification et la sécurisation des foyers d'insécurité réalisés, l'étape suivante sera la stabilisation de ces régions par le maintien d'un dispositif efficace d'une présence dissuasive apparente. Notamment, quand on poursuit la réforme des services de sécurité, et il y a déjà des initiatives qui ont été prises au niveau de loi, et actuellement, j'ai appris qu'au cabinet du ministre de la Défense, on travaille sur la loi de programmation militaire, qui est une loi qui permet de lever un budget annuel pour l'armée, et ça permettra de pouvoir mener des actions concrètes et relever les niveaux de vie. Et pour le reste, je suis d'accord, mais je pense que la manière dont ce plan de Marshall a été présenté Je trouve qu'on est allé un peu plus vite à la besogne, d'autant plus qu'on considère qu'une seule partie du Congo, alors que si on voit d'une manière générale, le Congo pratiquement sinistré de partout. Vous allez à l'Équateur, il y a des zones où vous ne trouvez pas de services sociaux de base.
Merci.
Donc, je pense qu'il faut relativiser ce qui a été proposé par le gouvernement belge.
Merci Jean-Jacques Ouondo. Je rappelle qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Roger Malinga, je rappelle que vous êtes conseiller politique et diplomatique du gouverneur de la province du Nord Kivu. Il faut déjà conclure en temps vers la fin de l'émission. Comment entrevoyez-vous l'avenir du Nord Kivu à partir de ces victoires enregistrées par les FARDC?
Disons que cette victoire ne peut avoir qu'un sens très significatif si réellement il y a un bout de sauvetage au niveau de la base, c'est-à-dire un investissement, c'est-à-dire un appui très considérable du gouvernement central aux activités qui seront réalisées au niveau de la base. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la paix, on parle aussi du développement. Et donc, on ne peut pas parler de la paix, on ne peut pas parler du développement sans la paix. Les initiatives sont là, mais nous savons que le gouvernement du Nord Kivu est coincé par beaucoup de problèmes, il n'arrive pas à avoir de réunir les moyens suffisants pour exécuter sa politique sur terrain, dans les développements et dans d'autres secteurs. Bref, nous sollicitons l'appui très considérable du gouvernement central pour que finalement cette victoire des FARDC ait une raison d'être ou la signification que nous attendons de ce qui est arrivé dans les territoires de Rutshuru. Je vous remercie.
Merci Roger Malinga. Thomas Dakin-Mwiti, vous êtes président de la société civile du Nord Kivu. Et Abissimo Amos qui nous écrit de Bukavu Sud Kivu qui dit « Pour consolider l'autorité de l'État et le développement au Nord Kivu, il faut que le gouvernement déclare cette province sinistrée, qu'elle soit exonérée des taxes et que tout le gouvernement national y exerce momentanément ses activités. »
Je pense que je l'ai déjà dit. J'ai dit merci à celui qui ne fait qu'appuyer mon point de vue, mais je pense que il y a beaucoup de choses comme je venais de le dire. Il y a des choses qui peuvent se faire qui ne nécessitent pas beaucoup de moyens. Par exemple, quand nous disons il faut mettre fin à la corruption, il faut mettre fin au clientélisme, il faut mettre fin au mercenariat qui caractérise certains acteurs étatiques dans leurs activités. Il faut réhabiliter la population dans les concessions qui ont été acquises par la force, par les officiers militaires, par les rebelles, notamment M. Kazarama, qui a renvoyé la population à Tongo dans une concession et qui s'est appropriée. Déjà comme ça, doivent être réhabilités et toutes ces activités-là ne nécessitent pas beaucoup de moyens pour que la population commence à vaquer à leurs activités agricoles dans Merci. Les concessions qui leur ont été arrachées par la force. Et ainsi de suite, il y en a beaucoup. Laurent Kunda en a arraché autant dans la chefferie de Bachali, Bizi Makara et consorts. Donc, créer un tribunal spécial, je pense que ça relève de la compétence et de la
Merci.
Une internationale qui est prête à accompagner des processus.
Merci Thomas Dakin-Mwiti.
Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites seulement par la volonté et qui ne nécessitent pas beaucoup de moyens. Mais je suis d'accord
Merci.
Avec Merci. Mon collègue. Mon
Merci. Collègue. Merci Thomas Dakin-Mwiti. Désolé de vous couper. Il nous reste moins d'une minute. Jean-Jacques Ouondo, il faut conclure. Thomas Dakin-Mwiti affirme qu'il y a des choses qui peuvent se faire sans trop de moyens.
Je suis tout à fait d'accord avec lui et je suis d'ailleurs d'accord, que je le dis souvent dans mes analyses, il est question de la volonté. Et parfois je dis de la volonté politique et moi j'irai même plus loin de la détermination. Mais pour moi, la chose la plus importante est que les populations permettent aux populations de s'approprier cette victoire ou ces avancées. De sorte que s'ils considèrent ces victoires comme étant les siennes, ils soient les premiers acteurs, les premiers artisans de la reconstruction de leur pays. Donc d'abord, que les populations se puissent s'approprier la victoire.
Merci.
Et qu'il y ait une volonté politique de pouvoir changer la manière de faire la politique et
Merci.
De privilégier l'intérêt national et l'intérêt général des populations.
Merci. Merci Jean-Jacques Ouondo. Je rappelle que vous êtes analyste politique, expert en questions militaires, également auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FARDC ». Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix.